France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Vincent Segal et je suis né à Reims en Champagne le 27 avril 67 et je suis violoncelliste.
Cette enfance, elle se passe à Reims, avec cette cathédrale quand même. On n'en a pas parlé, mais c'est un personnage quand même dans la ville qui est assez impressionnant.
Surtout que c'était ma voisine directe. Au début, on était dans une petite maison, je me souviens quand mes parents étaient encore étudiants. Enfin, mais après, on était dans une grande maison au coin de la cathédrale de Reims. Et je me mettais sur la gouttière. Je me souviens, j'aurais pu tomber souvent, en fait. Et j'adorais ça. Je regardais les Sagittaires. Parce qu'il paraît que le Sagittaire, il y avait une flèche et c'était dirigé juste sur l'archevêché. Parce que les sculpteurs et tout détestaient les gens qui payaient la flèche visait la chambre de l'archevêque. C'était drôle. Et puis il y a cette histoire à Reims de la guerre 14-18, quoi. Enfin, c'est vraiment, il y a un poème. La cathédrale de Cologne est désolée pour la cathédrale de Reims à cause de la guerre 14-18. Et c'est un poème écrit en Russie, donc je trouvais ça assez touchant qu'un Russe s'intéresse à cette tragédie et aux cathédrales et au fait que le toit avait fondu. La ville était en miettes. Donc la ville était en miettes, c'est pas mal parce que finalement on a une ville assez art déco avec des très beaux bâtiments. Enfin, je trouvais ça, c'était le côté de Reims que j'aimais bien parce que sinon, franchement, si j'avais pas eu le conservatoire et ma famille, je m'ennuyais un peu à Reims. Enfin, à la maison, il y avait une bonne ambiance. Mais
qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents?
Alors mon père était gastro-entérologue, donc médecin, ma mère infirmière, un grand classique. Mais mon père amoureux de l'histoire de la médecine, donc il était à l'académie sur l'histoire de la médecine, enfin des trucs assez sérieux. Et en même temps, il a monté un département d'alcoolologie. Il s'occupait d'alcoolisme, hein, parce qu'il s'est rendu compte quand il était médecin dans les milieux ouvriers et tout qu'il y avait beaucoup de problèmes liés à l'alcool et qu'il y avait rien à l'époque. Donc il a créé un centre d'hygiène alimentaire, un CHA, où en fait il aidait les gens à sortir de l'alcoolisme pendant des années. Et ma mère, elle était infirmière, elle s'occupait énormément de nous. Parce que Monsieur Pénassou voulait souvent que les parents viennent au cours. Et je trouvais ça génial aussi, quand il pouvait. J'ai un souvenir de Miguel avec sa maman, Miguel da Silva du Quatuor Isaïe, parce que c'était mes congénères. Il y avait Jactis, Miguel da Silva, Vinjactis qui est à l'Opéra de Paris, Michel Poulet qui était violoncelliste du premier Quatuor Isaïe avec Christophe Giovanninetti. Enfin, je les adorais. C'était un peu mes grands frères, quoi. Et j'ai les souvenirs de Miguel au cours de musique de chambre et sa mère, Madame da Silva, qui travaille très dur. Elle avait vraiment une vie, je sais pas, elle se levait à 5 heures du matin pour travailler. Enfin, mais elle était au cours. Et Miguel était habillé impeccablement. Je me souviens de ça. Et on connaissait tous les parents. Ça se fait plus du tout maintenant. C'est un truc qui a complètement disparu dans les conservatoires. Mais il n'y avait que lui qui faisait un peu ça comme ça à l'époque. Je ne crois pas que les autres profs faisaient pareil. Mais nous, quand on rentrait dans la classe, il y avait presque autant de parents que d'enfants, quoi. Je dois dire qu'à l'époque, je jouais du violoncelle toute la journée, mais très mal. Si j'ai des étudiants, je leur demande de pas faire ce que je faisais à l'époque. Par exemple, j'adorais le concerto de Schumann, et donc je le prenais alors que j'étais en troisième année de violoncelle, et en fait, c'était impossible de... Mais j'avais la partition piano et violoncelle, et je faisais un peu tout. Et moi, je l'entendais dans mes rêves. Ça devait pas sonner comme ça, mais j'avais l'impression d'être vraiment proche de ce qui devait être fait, mais en fait, c'était avec les moyens du bord, donc je faisais tout sur un doigt, deux doigts, enfin... Et j'ai essayé de jouer déjà pas mal de jazz petit aussi, mais...
Vous entendiez très bien déjà.
J'avais une super oreille par rapport à maintenant où j'ai, avec l'âge, on n'a pas la même acuité, je pense. Mais à l'époque, j'avais une oreille incroyable, ça c'est sûr. Ça, c'était un gênant, j'entendais trop les notes même. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas très bon en fait d'entendre tout le temps
Le nom de la note dans la
tout.
Note.
C'est-à-dire, j'entends quelqu'un jouer, j'entends les notes. J'entends pas une phrase. La difficulté quand on est petit avec l'apprentissage de tout, c'est de pas en faire trop, mais de le faire précisément pour ne pas reproduire des défauts.
Oui, mais est-ce que c'est possible, ça?
Oui.
Bon, quand un enfant a l'appétit, j'ai l'impression que c'est quand même difficile.
Non,
de
mais j'ai connu des enfants qui avaient ça. Jean Guienne.
Ah oui.
Keras, 15 ans. Il venait à chaque cours, il disait, ouais, là j'ai changé ça, j'ai travaillé en faisant cette position de main, ce doigté, avec Rennes Flachot, je me souviens. Et nous, on était là, ouais, mais... Ou alors il disait, ouais, j'ai travaillé en changeant l'accordage pour cette suite, pour voir ce que ça faisait. Et tout. Enfin, il avait des méthodes de travail hallucinantes. Depuis tout petit, il adorait ça. C'est-à-dire qu'il avait un côté... il faisait l'expérimentation, mais avec une rigueur d'ingénieur. Mais quand on était petit... je pense que mon prof de violoncelle était génial parce qu'il avait un côté soif de jouer, de la musique de chambre. Il nous parlait comme si on allait être aussi musicien, pas une éventualité. Ça, je crois que c'est très important aussi. C'est-à-dire, il parlait à tous les élèves comme si c'était des futurs musiciens. J'ai jamais entendu M. Benassoud dire « lui, il pourra être musicien, lui, non ». Jamais. Ça, je trouve ça magnifique. Et d'ailleurs... La plupart de mes collègues de l'époque sont des musiciens professionnels. Très peu ont arrêté, très peu. J'étais avec Didier Petit, c'est un autre expérimentateur, enfin, qui est jazzman, et lui c'était un anarchiste à 16 ans. Il venait au concours, il disait « Vous croyez que c'est parce que c'est un concours que je vais jouer ce que vous voulez ? Non, je vais jouer du free jazz. » Il était déjà comme ça à l'époque, il était rebelle, il s'est fait virer du conservatoire, mais c'était un élève de M. Penasso et il a toujours un grand respect pour M. Penasso et moi j'ai toujours un grand amour pour lui, parce que j'admirais son excentricité à l'époque. J'étais là, ouais, il ne suit pas les règles, c'est incroyable.
Égal, vous faisiez, j'allais dire, la partie académique et puis vos expériences pour vous ou avec M. Penassoud, vous partagiez aussi ces recherches sonores dont vous aviez l'appétit comme ça.
On partageait beaucoup. Et là, avec le recul, je me rends compte qu'on partageait énormément en fait. Il me laissait faire, mais sur les recherches de Pete, tout ça, sur le jazz, il aimait beaucoup le jazz, mais il le connaissait pas très bien. Enfin, il y avait toute une partie de la musique. Que ce soit la musique ancienne, il comprenait pas, moi, à l'époque, il était un peu méfiant par rapport à des gens comme Christophe Coin qui arrivait, enfin, qui était jeune violoncelliste baroque ou violiste ou, il était un peu sur la défensive, un peu conservateur sur ça. Puis après, j'entends Christophe Coin, je suis là, waouh, c'est génial quand même. Mais à l'époque, lui, il était un peu, et sur les musiques du monde et le jazz, c'était des choses qu'il connaissait pas, mais il était ouvert. Je me souviens, c'est un exemple un peu anecdotique, mais c'est pas si anecdotique que ça. C'est un jour, je lui dis, ouais, il y a un film qui est sorti, c'est quand même dingue, ça s'appelle Les Blues Brothers. Donc pour moi, je trouve ça dingue qu'un film s'appelle les... Et on y est allé tout de suite. C'est-à-dire, il était en train de faire ses cours et il a dit aux élèves, venez, on va voir un film. Et puis, on est tous allés voir le film Les Blues Brothers. J'ai vu Les Blues Brothers avec Pierre Penassoud, quand tu repars rien, c'est quand même bien, quoi.
Alors son enseignement, j'allais dire la base qu'il vous donnait, il y avait un côté académique aussi, technique, parce qu'on a l'impression que c'était une espèce de bain où tout était possible. J'imagine qu'il y avait aussi quand même des années, vous passez d'année en année, vous avancez.
Ah non, mais les concours, c'est des expériences terrorisantes. Pas terrorisantes, mais il y avait... Le conservatoire de Reims, à l'époque, c'était une ancienne banque. Je pense qu'elle a dû être reconstruite un peu à cause de la Première Guerre mondiale, mais elle avait ce côté... bâtiment 19e siècle quand même. C'était pas un bâtiment art déco du tout. C'était vraiment un bâtiment un peu plombant 18e quoi. Mais refait, je pense que ça a été refait. Et donc quand on était au sous-sol, les percussionnistes, ils étaient en prison parce qu'ils étaient dans la salle de la banque
des coffres. Ouais, des coffres.
Donc il y avait plein de grilles. J'étais là, mais pourquoi en classe de percussion, il y a au moins 3 portes blindées? Et alors c'est drôle parce qu'il y a vraiment la sociologie du conservatoire dans toute sa splendeur, c'est-à-dire premier étage. Piano, violon, violoncelle. Étage noble. De temps en temps, il y avait par exemple prof de clarinette était au premier étage. Mais après, on montait un étage et on avait les bois. Et tout en haut, c'était les cuivres. C'est-à-dire, il y avait un prof qui était génial, qui s'appelait Monsieur Grévillère, qui a formé énormément de trombonistes, qui jouent à l'opéra, qui jouent à l'orchestre de Paris. Enfin, la classe de Grévillère, hein, c'était dans les années 70, c'était une classe énorme. Et on allait le voir pour apprendre à respirer. Il nous aidait beaucoup. Quand on avait du trac dans le début de l'adolescence, des choses comme ça où on n'a pas confiance, le fait d'aller voir Monsieur Grévillère, on apprenait à respirer longuement et à se détendre en fait. Et ils étaient on disait chambre de bonne quoi. C'était. Et donc l'été, ils ouvraient leurs fenêtres et toute la ville entendait des éclats de trombone. J'ai retrouvé ça au conservatoire d'Hanoï. Dans le conservatoire, ils sont dans les cages d'escalier, dans les trucs. Et quand on arrive à 50 mètres du conservatoire, on entend un bois parce que maintenant les conservatoires sont insonorisés. Je trouve ça très triste quand on passe dans les conservatoires modernes. En fait, personne ne sait qu'il y a un conservatoire presque. On n'entend rien. C'est aseptisé, tout est insonorisé. À l'époque, rien n'était insonorisé. Donc on allait dans des salles. Par exemple, moi j'avais une salle où dès qu'on jouait dans cette salle, on avait l'impression qu'on était le roi du monde parce qu'il y avait une réverb de 2 secondes. Alors quand on est petit, on adore ça, mais c'est hyper flou. Moi, je passais un temps fou dans cette salle. C'était l'ECM avant l'heure, quoi. Dès que je jouais du violoncelle dedans, tout. C'était comme dans une caverne. Alors on adorait tout ça. On se retrouvait dans cette salle et les adolescents se retrouvaient pour fumer dans cette salle aussi. Donc c'était assez drôle. C'était vraiment la salle des miracles. Résumer la partie orthodoxe, j'ai un souvenir d'un examen, je pense que je devais avoir 13 ou 14, où j'ai échoué. Il y a une chanson de Dick Angar, J'échoue, qui est une chanson que j'adore, mais c'est. Comme il dit, en une demi-seconde, j'ai trouvé un contact étroit avec la poussière. C'était ma sensation quand j'ai été ce concours, et le regard de M. Pénassou au premier rang sur le côté, pour laisser le jury avec la clochette, pour faire arrêter et tout. Enfin, table verte. Avec l'espèce de verre billard.
Le feutre. Là.
Voilà. Des gens qu'on ne connaît pas. Parce qu'on n'est pas physionomiste. Quand on est petit, enfin adolescent, on ne connaît pas les grands violoncellistes comme ça, sauf si on est vraiment très pointu. Enfin, moi, je ne les reconnaissais pas. Ils avaient tous des regards comme si j'allais être jugé pour un crime ou un truc. Enfin, il y avait vraiment un côté comme ça. Hein. L'accompagnatrice qui nous regardait en disant « ne rate pas », mais en même temps, dans son regard, on se disait « il va rater ». J'avais déjà peur de m'accorder. Et je commence à jouer, et là, c'est comme un truc de ski, quoi. Première erreur, deuxième erreur, et le regard d'une noirceur de Monsieur Pénassou, comme un épagnol triste aussi, un côté presque, on dirait qu'il va pleurer. Et après, il a claqué la porte quand je suis sorti de la salle. C'est la seule fois où j'ai vraiment eu ce truc. D'ailleurs, ça n'a pas été un drame, mais il faut savoir échouer, quoi. Enfin, et puis je me souviens quand il y avait les jurys qui se passaient mal, où il y avait des fois il y a eu des mauvaises années, des mauvais crus, quoi. Enfin, ils claquaient la porte, pareil. Ils regardaient tous les parents. Ils disaient ouais, ça va être terrible ce soir. J'avais jamais envie de le décevoir, ça c'est sûr. Surtout en musique de chambre. Surtout en musique de chambre. Le reste, bon. C'est des âges où on n'a pas confiance en soi, quoi. Donc j'ai commencé à avoir l'archet qui tremblait un peu. C'était horrible parce que j'adorais jouer les mouvements lents et puis c'est horrible de se sentir et de sentir une espèce de tremblote qui fait qu'on entend. Et plus on y pense, plus on tremble. Et c'est arrivé à tout le monde. Enfin, je veux dire. Et en fait, quand tout ceci s'est passé, c'est le moment où je me suis dit mais jouons pour la musique, pas pour la représentation, pas pour. Et à partir de ce moment-là. enfin, beaucoup de choses ont changé dans ma façon de jouer sur scène. Même si, quand je retrouve des sensations où je dois jouer pour X raisons, par exemple, là, il y a un programme qu'on va faire avec Patrick Messina, le clarinettiste, sur Jobim, et je sais qu'à un moment, on va jouer à un mouvement lent du trio de Forêt, mais à chaque fois que j'ai ce genre de choses à jouer encore aujourd'hui, me revient ces sensations d'époque conservatoire, puisque je les ai abandonnées, j'ai pu rejouer ça pendant des années, donc, par exemple, j'ai jamais joué les suites de Bach en concert, jamais de ma vie. Et il n'y a pas longtemps, je recommence à en jouer parce que là, je me dis, enfin maintenant, je commence à pouvoir en jouer par plaisir en disant, voilà, j'ai rien à prouver, mais je fais par plaisir pour moi. Mais avant, c'était plus comme du sport.
France Musique, les grands entretiens de Vincent Segal.
Avant d'arriver à Lyon, Vincent Segal, sur cette villa à Reims, est-ce qu'il y avait aussi la discothèque familiale, et les copains, le conservatoire, la découverte de la musique qu'on produit soi, mais est-ce qu'il y a aussi des souvenirs de concerts, de musique vivante? Est-ce que vous sortiez avec vos parents au concert?
Tout le temps. Tout le temps. Je dirais, on parlait du Quatuor pour la fin des temps, mais je me souviens d'une version de Monsieur Pénasso avec Portal, Poudermacher et Gérard Jarry, dans la salle du conservatoire, qui s'appelait la salle Lefebvre d'Hérodée, et c'était magnifique, magnifique. Après, j'ai des souvenirs de concerts au conservatoire, j'ai des souvenirs de concerts à la Maison de la Culture, par exemple d'avoir vu Richter.
En récital?
Oui, tout seul. C'était un grand souvenir. Avec mon père, j'allais énormément au concert de Chicago Blues, de jazz, dans les clubs. Il y a un endroit qui existe toujours, mais qui s'appelle le Café du Palais à Reims, où il y avait énormément de concerts de jazz, mais comme un club. Mais sauf que c'était des amis de mes parents, donc j'adorais aller là-bas, l'endroit était fantastique. Il y avait, à Noël, le sapin était accroché à l'envers, les cadeaux pendaient et tout. Enfin, c'était un type excentrique. J'ai une photo de moi dans ce café où je joue du violoncelle et il y avait Peter Falk qui est venu et je pose avec Peter Falk et je dois avoir 14 ans. Je le connaissais pas parce qu'on n'avait pas la télé, mais j'adore les films de Cassavetes, donc je suis très fier d'avoir cette photo. Surtout qu'il était là, il m'embrasse comme ça avec le violoncelle. Enfin, ça c'était le Café du Palais, qui était vraiment un endroit où j'avais envie de jouer là en fait, de pas jouer dans une salle de concert habituelle. Et alors, ce qui était le plus important pour moi, c'était le festival de jazz de Nice à Cimier dans les années 70. En fait, on se retrouvait avec mon père et c'était une ambiance qui n'existe plus aujourd'hui dans aucun endroit au monde. C'est-à-dire qu'il y avait pas de service d'ordre, il y avait pas de sécurité, il y avait rien. On rentrait, on donnait son ticket. Les concerts commençaient à 17h jusqu'à 24h non-stop. Il y avait trois scènes. Donc, il y avait une scène qui s'appelait un peu plus le dancing. Il y avait un endroit dans les oliveraies. On pouvait se mettre dans l'herbe. Et il y avait les arènes de Cimier, donc les arènes latines. Et mon choc, ça a été d'écouter un concert d'Albert Collins, qui était un bluesman un peu rude, qui jouait avec une Telecaster, du blues texan assez intense. Funk, très funk, pas blues comme B.B. King par exemple. Il y avait ce bassiste qui s'appelle Johnny Guyden que j'ai eu la chance de revoir quand on jouait à Chicago avec Balaké. Je lui ai écrit, il est venu au club avec le producteur de Alligator de Blues. Parce que ce musicien m'a donné envie de faire réellement autre chose. Pourtant, c'était vraiment un bassiste, c'était même pas Albert Collins, c'était lui à la basse qui était. Et je le voyais, j'étais là, mais il avait l'air tellement bien. Ça dansait. Je me souviens du saxophoniste, il avait un jean et il avait mis de la dentelle de dessous féminin cousue sur, comme une ligne sur son jean. C'était hyper mauvais goût. Enfin, il y avait un côté délinquant. Enfin, c'était ghetto. C'était... Après, j'ai compris en travaillant avec les rappeurs et tout, ce que c'était la ghetto culture noire américaine. Mais à l'époque, je connaissais pas ça, mais ça m'intriguait. Ils avaient un non-look. C'était pas comme mes copains à l'époque écoutaient de la New Wave ou des choses comme ça. Enfin, et en fait, eux, leur musique, il y avait quelque chose de fou et qui avait rien à voir avec le conservatoire. Rien à voir, mais rien, quoi. Enfin, c'est aucun élément. Là. Il y avait trois accords. Et ce funk, personne ne me l'avait appris au conservatoire. Et donc, mon rêve, c'était qu'on dise, ah, il se sent pas bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir le remplacer pour faire la basse? Et moi, j'aurais pris la basse. J'avais jamais joué de basse électrique, mais si on m'avait demandé, je l'aurais fait. Tellement j'étais obsédé par ça. Et je prenais mon violoncelle des heures pour essayer de retrouver cette sensation.
De jouer avec les pids, de trouver des manières de faire.
Voilà, s'il y a un concert qui m'a marqué dans ma vie, sur tous les concerts que j'ai vus, c'est ce concert.
Just for yesterday, I said, honey, here's a present. Go out and shop around. Get you a couple of dresses. Browse around downtown. She did just what I told her. Bought 1, 2, 3. Came home looking silly, making goo-goo eyes at me. Out the chart. Back up in her car.
À ce moment-là, Vincent Segal, il y a déjà cette espèce de conscience, ou pas, mais de se dire, le violoncelle, ce sera ma vie. Enfin, la musique, ce sera ma vie.
Le violoncelle, en fait, à l'époque, j'avais pas de vision de ma vie future parce que j'avais l'impression que le violoncelle me menait à la salle Lefèvre d'Hérodée et à jouer le quatuor pour la fin des temps ou le quatrième quatuor de Beethoven. Ou... J'avais la vie qui m'était tracée par M. Pénassou. C'est ça, je me souviens... Très clairement, je me projetais pas du tout dans le truc. À l'époque, d'ailleurs, au CNSM, on me demandait « Tu veux jouer concerto avec orchestre ?» ceci. Et à chaque fois, je refusais. Enfin, c'était vraiment... J'adorais être dans l'orchestre ou j'adorais dans la musique. C'est pas une histoire technique, mais j'arrivais pas à me projeter. Et donc, pour moi, le violoncelle, finalement, c'était mon compagnon et en même temps, un poids. Parce qu'en fait, quand j'ai vu ce concert d'Albert Collins, je les voyais rentrer sur scène. Il n'y avait pas ce truc de saluer les gens, ils prenaient leur instrument... Et en deux secondes, ils attaquaient et t'étais avec eux, mais ils étaient dans leur monde à eux, qui était le monde de leur quartier à Chicago. Et même si c'était à Nice, devant des fêtards qui étaient avec des pambagnas et des trucs horribles, quoi. Enfin, quand je repense à ce qu'ils voyaient devant eux, pour moi, je trouve que c'est une leçon géniale parce qu'ils avaient cette classe de pas jouer démagogiquement, aucune démagogie de dire, ouais, on est devant un public de touristes niçois, enfin, ou internationaux, mais des gens qui sont en vacances. Non, ils arrivaient, ils avaient cette espèce de dignité de dire, voilà, on vous joue. Là où on est bien, quoi. Et c'est ça qui m'a marqué dans ce concert. C'est comment... Un peu comme des concerts de musique indienne traditionnelle. C'est la même chose, espèce de... Je suis là, waouh. Et la transition est venue à l'adolescence. Il y avait une route et une autre route. Et elles n'étaient pas liées. C'est-à-dire que je retrouvais des copains adolescents du lycée qui n'étaient pas du tout des musiciens. Et souvent, ils me laissaient des guitares ou des basses. Et c'est l'époque où mon père m'a acheté ma première basse, d'ailleurs. Ou m'a offert un ampli, je ne sais plus, mais... Et en fait, je me disais, tiens, c'est marrant, quand je suis avec eux, ils jouent très fort, ça me cassait un peu les oreilles. Mais par contre, je prenais n'importe quel instrument et je sentais que dès que je jouais avec eux, bon, c'était tous des mecs... Enfin, ils jouaient pas mal, hein, mais c'était pas les Beatles, hein, mais c'était les hip-hop punk, Clash, tout ça. Mais dès que je prenais un instrument et que j'étais sur scène, il y avait un truc d'énergie qui marchait pour le groupe. Et en même temps, j'avais... Par rapport à eux, j'avais zéro look, j'étais habillé comme un enfant de conservatoire, un peu comme là, presque pareil... velours, enfin, tous mes copains avaient des Doc Martens, des Perfecto avec Damn marqué dessus, enfin, No Future, enfin, les Iroquois, tout ça. Et ils m'acceptaient comme j'étais. Et finalement, c'était pas mal en groupe. Ça faisait comme si le prof de philo était venu dans leur groupe, ou même j'avais des Bermudas à culottes courtes, enfin, des trucs comme Angus Young, mais pas fait exprès, quoi. Mm. Par contre, quand je jouais, il y avait une bonne réaction des jeunes de tous les côtés. Et ce parcours-là, ça a été mon parcours initiatique pour la suite, en fait. C'est drôle.
Le Le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Vincent Segal se referme avec le violoncelliste dans une de ses compositions intitulée « Rien dans les poches ». Réalisation Christine Amado, prise de son Christophe Papon, mixage Benjamin Vignal, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.